Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. C'est de sa faute. Je n'y suis pour rien. Qu'elle se débrouille. C'est la faute au gouvernement. C'est la faute à la société. C'est la faute à l'Église. Il n'est parfait. Moi, je ne ferai jamais une chose pareille. Ce n'est pas de mon genre. Ces expressions nous sont familières. Que nous les entendions ou que nous en ayons fait une partie de notre vocabulaire. Notre civilisation court à sa perte et à la fin des 6 jours d'une semaine millénaire accordée aux humains pour tenter leur propre expérience, indépendamment de leur créateur, dans leur folie destructrice, ces derniers s'apprêtent à tout incinérer. Et tous semblent jouer le jeu de l'innocence, blâmant les autres pour leurs déboires et tous leurs malheurs. À qui la faute ? Entend-on souvent dire. Expression qui sous-entend généralement que l'on n'a rien à se reprocher, mais que l'autre ou les autres, eux, ceux-là, c'est eux qu'il faut blâmer. Nos politiciens sont passés dans l'art du blâme, rejetant toute faute sur les autres. Mais sont-ils les seuls experts dans ce domaine? Julio Cortázar, auteur argentin de romans et de nouvelles, qui vécut longtemps en France, disait que, je cite, « la lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu'on refuse. La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu'on refuse. » Remarque fort perspicace, vous et moi qui sommes les prémices de l'Éternel dans son merveilleux plan de salut, nous avons goûté et continuons de goûter la vraie liberté, la liberté en Christ. Une liberté qui est une perle de grand prix. Victor Hugo disait que, je cite, « tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité ». C'est biblique et c'est doublement vrai. Pour nous, c'est même divin, car un enfant de Dieu est un être responsable. Je vous propose aujourd'hui une petite réflexion sur nos responsabilités. Le patriarche Job disait « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. » Job 19, 4. C'est une bouffée d'air frais dans un monde passé maître dans l'art de blâmer les autres, pour tout ce qui ne va pas. Job assumait ses responsabilités. Et vous? Et moi? Et nous? Le premier des hommes, Caïn, qui tua son frère, ne s'estimait pas responsable de ses actes. En fait, son papa, le premier homme, Monsieur Adam, avait fait la même chose quand Dieu lui demanda « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et Adam répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, la femme, et j'en ai mangé. » Et Madame Ève, à son tour, joua le même jeu, et plutôt que d'accepter sa responsabilité, jeta le jeu du blâme sur quelqu'un d'autre, en l'occurrence le serpent, Satan, copiant son petit mari et lançant à son tour, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Vous connaissez l'histoire, je ne vous apprends rien. La première étape franchie quand nos premiers parents décidèrent de se fier à leur propre raisonnement, de s'arroger la prérogative de définir ce qui est bien et ce qui est mal, bon ou mauvais, fut donc de jeter le blâme sur quelqu'un d'autre. C'est l'une des premières choses qui se passe quand on s'écarte de Dieu. On devient lâche. Le cerveau se met à fonctionner ainsi, à divaguer. On se met à s'esquiver, on se dérobe. C'est là une faiblesse que nous avons tous. Notre conscience nous chicote parfois un peu, parfois pas du tout. Et nous préférons parfois, ou souvent, fermer les yeux, faire la politique de l'autruche qui s'enfouit la tête dans le sable. Incidemment, l'autruche ne cherche pas à nier la réalité. Elle n'est consciente de rien, c'est un animal. Elle ne sait même pas ce que c'est que la réalité. Mais nous autres humains, si. Et c'est problématique, parce que cela nous ferme les portes du royaume de Dieu. Cela nous empêche de croître. car pour devenir enfant de Dieu, nous devons être en tout point honnêtes, dignes de confiance, responsables. La Bible parle notamment de deux rois de Juda, je citerai simplement deux exemples, ce sont des exemples, mais deux rois qui étaient bons, des rois de Juda qui étaient bons. Le premier, Ézéchias, dont il est question dans 2 Chroniques 29 à 32, hérita de son royaume d'un roi méchant, son père. Dès le début de son règne, Ézéchias purifia le temple de l'Éternel, dont on ne s'était guère occupé et qu'on avait rejeté, rétablissant le vrai culte de Dieu. Il célébra également la Pâque, un autre commandement de l'Éternel qu'on avait négligé. Ézéchias prit ses responsabilités au sérieux, ce que papa Akaz n'avait pas fait. Akaz avait fait de très mauvais choix, des choix désastreux même. Ézéchias élimina systématiquement toutes les influences païennes horribles dans son pays et tint tête au roi le plus puissant de son temps, Sanchérib d'Assyrie, qui s'était moqué de Dieu et de tout ce qu'il avait dit à son peuple. Le bon roi Josias, un autre exemple, dont il est question dans 2 Chroniques 34 et 35, suivit l'exemple d'Ézéchias. Il hérita le royaume après le règne de deux très mauvais rois, Manassé et Amon, qui avaient détruit tout ce qu'Ézéchias avait instauré. Josias purifia de nouveau le pays de toutes ses horribles pratiques païennes. Il découvrit également le livre de la loi, qu'il s'engagea à pleinement respecter. Et à l'instar d'Ézéchias, il réinstitua le culte dans le temple de l'Éternel et organisa une Pâque mémorable. Josias prit ses responsabilités au sérieux, très au sérieux. L'exemple de ces deux rois montre bien que même lorsque tout ce qui se passe autour de nous, y compris dans nos propres foyers, n'est pas bon, nous pouvons malgré tout nous accrocher au standard divin. C'est un libre choix, un libre choix. Que se passa-t-il entre le règne d'Ézéchias et celui de Josias? Pourquoi Josias dut-il en somme reprendre les mesures qu'Ézéchias avait prises? Le fils de ce dernier, Manassé, dont il est question dans 2 Chroniques 33, n'était guère connu pour sa bonté. Bien qu'il se soit repenti à la fin de sa vie, il provoqua pendant bien des années des dégâts irréparables et agit de manière abominable. Il réintroduisit toutes les influences et les pratiques païennes abjectes, y compris les sacrifices d'enfants, la sorcellerie, la magie et l'occultisme dont Ézéchias avait tout fait pour se débarrasser et débarrasser son pays. Les nations environnantes trouvaient ces pratiques normales et bonnes, mais Dieu les haïssait. Manassé alla même jusqu'à ériger un autel païen dans le temple de l'Éternel. Son fils Amon encouragea également ses horribles pratiques quand il devint roi à son tour. Il savait ce qu'il faisait. Il n'était pas inconscient. Séduit? Probablement dans une certaine mesure, mais pas innocent. Ces exemples peuvent sembler étranges, mais Manassé ne faisait que pratiquer ce que les gens partout pratiquaient. Or, en adoptant les définitions que d'autres avaient du bien et du mal, il incitait Juda à commettre le mal, comme cela est indiqué dans le verset 9, le contraire du standard divin de la bonté. Nous devons évaluer les idées de ce monde à propos du bien et du mal, et réfléchir à ce que le prophète Ésaïe a écrit. Ésaïe chapitre 5, verset 20, Ésaïe chapitre 5 et le verset 20 sera le premier passage auquel nous nous reportons ensemble. Ésaïe chapitre 5 et le verset 20, Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ceux qui font de telles choses ne sont pas innocents. Soyons sur nos gardes. 100 ans environ s'étaient écoulés dans l'ancien Israël depuis l'époque du roi David, qui avait établi un standard élevé de fidélité et d'intégrité au service du seul vrai Dieu. Un roi inique nommé Achab régnait dorénavant et son comportement courrouçait Dieu encore plus que celui des rois d'Israël qui l'avaient précédé. Un roi 16:33. C'était approximativement en 870 avant notre ère. L'apostasie régnant du temps d'Achab résultait de nombreuses années vécues sous le règne de rois corrompus et de plus en plus méchants. Et le pays était dorénavant rempli d'iniquité. La majorité des gens avaient succombé à Satan et à ses démons, adorant Baal et Astarté, deux divinités païennes. Achab était responsable de ce qu'il faisait. Il n'était pas innocent. Le plus grand miracle public d'Élie eut lieu lors d'une confrontation avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté au mont Carmel. Élie invita ses faux prophètes et tout Israël à une démonstration qui allait prouver que Baal n'avait pas le moindre pouvoir face à l'Éternel, au Dieu d'Israël. L'issue de cette confrontation allait désigner le vrai Dieu. On trouve cela dans 1 Rois, chapitre 18, versets 19 à 40. Vous connaissez le passage. Afin de démontrer la puissance de Dieu, Élie dit à la foule rassemblée, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. » Un roi 18-22. Un roi 18-22. Il avait peu avant lancé au peuple le défi suivant. « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Verset 21. Dieu allait ce jour-là fournir à Israël la preuve irréfutable qu'il était le seul vrai Dieu, Dieu d'Israël. Le concours débuta donc. Pendant des heures ce jour-là, les prophètes de Baal implorèrent Baal de consumer par le feu leur sacrifice. Mais ils n'obtinrent aucune réponse. En fin de journée, Élie invoqua le Dieu d'Israël, qui fit descendre du ciel et consuma le sacrifice qui lui était adressé. Dieu exauça immédiatement la prière de son prophète. Des milliers de personnes virent une gerbe de feu descendre du ciel, consumant la carcasse, évaporant toute l'eau qui avait été versée dans la tranchée creusée autour de l'autel, et consumant même les pierres. Élie exposa ainsi la tromperie des faux prophètes de Baal. Et enfin, les Israélites furent convaincus que seul le Dieu d'Israël pouvait accomplir un tel miracle. Élie ordonna alors l'exécution des faux prophètes. Puis l'Esprit de Dieu poussa Élie à prier que la pluie tombe, ce qui se produisit. Ainsi prit fin la terrible sécheresse. Ni les Israélites ni les prophètes de Baal étaient innocents. Ils étaient responsables de leurs actions. Si nous sommes séduits, nous sommes malgré tout responsables dans une certaine mesure. Et Dieu seul connaît notre degré de sincérité et notre degré d'ignorance. Après que les faux prophètes de Baal aient été exécutés, Élie fut menacé de mort par Jézabel, l'infâme épouse du roi Achab. Cette reine d'Israël avait introduit le culte de Baal dans le pays, poussant le roi Achab à adorer ce faux dieu et avait érigé plus exactement des idoles en Israël. 1 Roi, chapitre 16, verset 31. 1 Roi, chapitre 21, versets 25 et 26. Vous connaissez ces passages. Jézabel était responsable de ces abominations. Elle en était coupable. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole divine. À la fin du VIe et au début du VIIe siècle avant notre ère, les prophètes Jérémie et Ézéchiel ont commencé à mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. des êtres humains. Ils l'ont fait comme jamais auparavant. À un moment où le monde entier est touché par la pandémie du COVID-19, il est bon de se demander qui est responsable. Beaucoup blâmeront Dieu, prétextant que c'est injuste. Mais soyons honnêtes, qui est à blâmer dans tout cela? Les Chinois? Certainement pas Dieu. Ézéchiel 14, versets 17 à 23. Dans les chapitres précédents, Dieu a montré à Ézéchiel toutes les abominations qui sont commises dans le royaume de Juda à l'époque, et plus précisément à Jérusalem. Nous pourrions dire la même chose à propos de nos nations et de nos villes modernes. Ézéchiel annonce la chute de Jérusalem qui est sur le point d'avoir lieu en 586 avant notre ère. Le royaume du Nord, les 10 autres tribus d'Israël, sont déjà partis en captivité plus de 100 ans plus tôt, vers 720 avant notre ère. Quand Ézéchiel prophétise, Jérémie, Daniel, Habakkuk, Nahum et Sophonie ont déjà prêché. Reportons-nous à Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, il est question dans ce passage, comme je le disais, Jérémie et Ézéchiel ont commencé à mettre l'accent sur notre responsabilité individuelle. Il est facile de se dire que nous sommes séduits, que nous ne comprenons pas tout. Bon, c'est vrai, il y a une certaine ignorance, mais vous et moi, dans quelle mesure est-ce que nous sommes ignorants? Ézéchiel chapitre 14, versets 17 et 23, « Et le monde, pourrait-on dire, est-il réellement ignorant ?» ou séduit, ou non responsable, irresponsable. Ézéchiel 14, verset 17, Ézéchiel 14 et le verset 17. « Si j'amenais l'épée contre ce pays, et si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. » Et là, on voit déjà le thème de responsabilité individuelle. Il y a trois individus ici que Dieu dit, eux, ils sont responsables, ils prennent leur responsabilité au sérieux. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur et par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes. Et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, ces trois individus, à nouveau, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice, parce qu'ils sont justes. » Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. » Et c'est très prophétique à cet état. Nous sommes le reste, en quelque sorte. L'Église de Dieu, à la fin des temps, est ce reste des enfants d'Israël. « Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, verset 23. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. » Et si vous lisez le 18e chapitre d'Ézéchiel, vous verrez qu'il est aussi fortement question de responsabilité individuelle. Faisons cela précisément et transposons ce que l'Éternel déclare ici dans notre monde moderne. Ézéchiel 18, verset 1. Ézéchiel 18 et le verset 1. Vous savez, il est tellement humain de dire « Ah, je ne savais pas, ce n'est pas de ma faute ». Il est facile de blâmer les autres et il est beaucoup plus difficile d'avoir la maturité de se blâmer soi-même et d'accepter ses propres responsabilités. Vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Les ministres ne sont pas parfaits. Ils sont des hommes comme les autres. Ils ont leurs propres faiblesses aussi. Aucun homme n'est parfait. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, Ézéchiel 18, verset 1. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Oh, c'est les enfants qui ont payé les pots cassés. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Responsabilité individuelle. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, manger dans les cultes païens. Ici, il ne s'agit pas de manger simplement, d'avoir un repas ensemble. Il y a un contexte ici. Qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage. C'est une voie, c'est une façon de vivre, c'est une question de moralité individuelle ici. Il ne commet point de rapine, donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Façon de vivre, mode de vie. Qui ne prête pas à intérêt, ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances. Nous pouvons accorder toute cette description, quelque sorte, à un vrai chrétien, n'est-ce pas ? Qui suit mes lois et mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel, parce que individuellement, il a pris certaines décisions qui permettent à Dieu de le bénir de cette façon. S'il a un fils, alors maintenant, lui va très bien, mais s'il a un fils, verset 10, qui soit violent, qui répandent le sang ou qui commettent quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait ? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Dieu nous montre ici que nous avons une responsabilité individuelle. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne à son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Il est responsable de ses propres actions, son fils est responsable de ses propres actions. On voit ici, Dieu met l'accent sur la responsabilité individuelle. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Alors ils avaient ce proverbe en disant, ah oui, on est comme des fautes des autres. Non. Nous sommes responsables. Dieu est juste. Dieu est juste. Et nous devons nous souvenir de cela. Vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père ? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est un de ces versets clés que nous mémorisons souvent. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, et à cause de cela, il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite ? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voix, chacun selon ses voix. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Nous devons bien nous dire, frères et sœurs, que tôt ou tard, chaque être humain, quel qu'il soit, homme ou femme, devra assumer sa propre responsabilité et être totalement honnête avec lui-même, car le mensonge n'a aucune place dans le royaume de Dieu. La vérité est au cœur de tout cela, n'est-ce pas? Blâmer les autres, c'est se mentir. Le déni est un mensonge. La justification est un mensonge. L'irresponsabilité est un mensonge. La lâcheté est un mensonge. Rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre est de la lâcheté. L'insouciance est un mensonge. Tout faux témoignage contre autrui, mais aussi contre soi-même, est un mensonge et donc un péché. Voilà donc un domaine que nous prenons au sérieux, à juste titre. Nous devons avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître nos torts et nos faiblesses. C'est le moins qu'on puisse faire en matière de repentir. Ce faisant, nous pouvons nous atteler à la tâche et remédier au problème. Et dans tout cela court le filigrane de cette merveilleuse qualité divine qu'est l'humilité. Il y a donc au moins tous ces éléments dans notre responsabilité individuelle. Comme Paul l'a écrit dans Galates 6, 5, il a dit « Chacun porte son propre fardeau. Chacun porte son propre fardeau. » Et finalement, question d'épreuve aussi, nous sommes tous différents les uns des autres. Nous avons chacun nos épreuves. Nous avons tous des épreuves qui ne se ressemblent pas nécessairement, ou qui se ressemblent peut-être un peu, mais Dieu agit en chacun de nous. Il nous forme. Il veut faire de nous ses fils et ses filles, ses enfants dans son royaume. Alors il nous forme. Chacun porte son propre fardeau. Et plus nous blâmons les autres pour nos péchés, nos carences, nos défauts, plus notre fardeau s'alourdit. Ce qui est inversement proportionnel à notre logique humaine. Et notre cœur est immensément impliqué dans ce processus. Le monde est certes séduit, mais il n'est pas totalement irresponsable. Il faut bien mesurer ce que je dis ici. Nous ne pouvons pas toujours blâmer Satan non plus pour tout ce qui va mal. Nous avons été créés libres de choisir. Et nous sommes toujours en partie responsables. Et plus nous savons, plus nous sommes responsables. L'ignorance n'est pas toujours une excuse. Dieu est juste. Chaque être humain doit tôt ou tard rendre des comptes. Dieu nous a créés libres de choisir. Nous sommes des créatures intelligentes. Par conséquent, nous sommes conscients de ce que nous faisons. De la Genèse à l'Apocalypse, il est donc question de responsabilité. Que lisons-nous par exemple? 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8 est un exemple. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a relié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'assume pas ses responsabilités envers sa propre famille, il a renié la foi, il est pire qu'un païen. Voilà ce que Dieu déclare par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, ici dans cette missive à Timothée. Parallèlement, Dieu ne nous blâme pas ou ne nous condamne pas ou ne nous juge pas pour les péchés des autres. Comme nous l'avons lu dans Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le père ne portera pas l'iniquité de son père. Le fils, pardon, ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Cela rejoint ce qui est écrit dans le Deutéronome. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Nous devons donc tous rendre des comptes. Dieu est miséricordieux, mais Dieu veut que nous agissions de manière responsable. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens 5 et le verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et pour nous, c'est maintenant. Maintenant, nous apparaissons devant le tribunal de Christ. Et le mot tribunal est un mot assez fort, mais nous sommes jugés, mais Dieu est miséricordieux. Il n'est pas là pour nous blâmer réellement, pour nous condamner. Mais c'est le moment pour nous de l'épreuve. C'est notre examen. C'est le moment pour nous de prouver si réellement nous sommes sincères, si réellement nous voulons entrer dans le royaume et devenir membre de la famille divine. Tous devront comparaître à un moment donné devant le tribunal de Dieu, un tribunal de miséricorde, mais qui néanmoins tiendra compte de nos responsabilités individuelles parce que Dieu nous a créés responsables et libres de choisir et nous sommes toujours, et le monde est toujours responsable dans une certaine mesure. Il y en a qui sont plus responsables que d'autres, ceux qui sont appelés, ceux qui ont le Saint-Esprit sont plus responsables que d'autres, que les autres, que le monde. Mais il y a toujours une certaine dose de responsabilité. Dieu est juste. Il nous a créés intelligents à nouveau. Pierre a dit que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça rejoint ce que je disais. Et c'est l'Église. C'est 1 Pierre 4,17. 1 Pierre 4,17, vous connaissez ce passage aussi. Le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et il a écrit cela il y a presque 2000 ans. Alors, ça a commencé à cette époque-là et ça s'est poursuivi au fil des siècles pour les vrais chrétiens. Et nous sommes jugés ou évalués. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine, est-il écrit dans les Proverbes. Et quand on se moque d'autrui, c'est généralement quand on voit la paille qui est dans l'œil du voisin, mais qu'on est incapable de voir la poutre qui est dans notre propre œil. Jérémie 31, 30. Pourquoi est-ce que je couvre ce sujet aujourd'hui? C'est parce que nous vivons à une époque où même dans l'Église, il y a on joue le jeu du blâme, souvent. On blâme l'Église pour telle ou telle chose. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent. Écoutez, l'Église ne va pas changer les doctrines. Les doctrines sont établies, elles sont dans la Bible. Si vous ne croyez pas ce que nous enseignons, écoutez, rendez-nous le service, allez voir ailleurs. Mais si vous savez que c'est la vérité, vous êtes responsable de ce que vous comprenez, de ce que vous savez. Nous vivons à une époque où on n'est plus responsable de rien, c'est la faute aux autres. Et cela nous affecte, vous et moi. Et nous devons donc nous rappeler régulièrement que je suis responsable de mes bêtises, de mes faiblesses, de mes péchés. Jérémie 31, 30. Chacun mourra pour sa propre iniquité. À nouveau, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, Jérémie et Ézéchiel, c'est à peu près l'époque où là, Dieu a commencé par l'intermédiaire de ses prophètes à mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. Individuelle. C'est tellement facile de blâmer les autres, de critiquer les autres. Soyons gentils, plus gentils, s'il vous plaît, les uns avec les autres. Vous voulez manger... Jérémie 31:30, chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera les raisins verts, ses dents en seront agacées par les dents du copain. Si vous voulez manger des raisins qui ne sont pas mûrs, c'est vous qui allez en goûter l'acidité, et non pas un autre. C'est vous et non quelqu'un d'autre qui avez pris cette décision de manger des raisins verts. C'est une image, bien sûr. Il faut évidemment, pour comprendre cela, avoir atteint une certaine maturité, être devenu adulte et responsable. La maturité se développe et les enfants n'en sont pas là, mais ils sont malgré tout responsables de ce qu'ils font, même à un niveau moindre. Dans les cas extrêmes, dans l'Ancien Testament, que se passait-il? Par exemple, dans Deutéronome 21, je le lirai simplement faute de temps, mais dans Deutéronome 21, il est écrit ceci. « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront. Et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. » Qui est responsable? Bon, les parents peut-être n'ont pas fait un travail formidable, mais le fils est bien responsable de ce qu'il fait aussi. Les temps ont changé, je ne vous conseille pas de faire cela aujourd'hui si vous avez un enfant rebelle. Mais quand l'ancienne nation d'Israël était une théocratie, était dirigée par Dieu, c'était ce qui se passait. Alors Dieu nous montre bien que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Quand un enfant désobéit à ses parents, et ce n'est pas nécessairement la faute à papa ou maman, surtout si papa et maman ont tout fait pour bien l'éduquer, ben c'est la faute au fiston ou à fifille. Et il ou elle doit en assumer les conséquences. Quand un individu prétend enseigner la vérité alors qu'il ne raconte que des inepties, il est responsable de ce qu'il prétend, et nous avons toujours des gens qui viennent dans l'Église qui racontent des inepties. Vous savez, c'est incroyable, on explique toujours les mêmes choses et on a beau expliquer ça régulièrement, tous les deux ou trois ans ou quatre ou un peu plus, ça revient toujours. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui vérifie ce qu'on lui dit. C'est ce que nous avons dû faire la plupart d'entre nous et c'est ce que nous faisons encore, car la Bible et elle seule doit être notre autorité finale. Certains insistent pour que l'on fête les nouvelles lunes, ou qu'on emploie les noms sacrés, ou qu'on tienne à tout prix à appeler M. Armstrong un apôtre, ou à ce qu'on dise qu'il était l'Élie prophétisé, ou bien ces gens-là sont séduits, ou bien ils racontent des idioties. Oui, ils sont de mauvaise foi ou de faux prophètes. Le mot apôtre était utilisé dans le monde païen pour décrire quelqu'un porteur d'un message officiel. Sans plus. Il a été appliqué dans un contexte religieux, mais on s'en servait avant la fondation de l'Église parmi les Romains païens. Il y a toujours des gens qui racontent des histoires, des bêtises, et il y a toujours des naïfs pour les écouter. Pour ce qui est d'Élie, nous avons raison d'être prudents. Nous ne voulons pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Christ déclara notamment qu'Élie était venu en la personne de Jean-Baptiste, mais il a aussi indiqué qu'il y a un autre Élie qui allait venir dans les, un autre individu qui allait venir dans l'esprit et la puissance d'Élie, clairement au temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Alors, donc, Élie semble symboliser un ministère particulier. Soyons prudents de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Soyons fidèles, nous sommes responsables. M. Armstrong est mort depuis 34 ans. Nous devons donc nous attendre logiquement à un autre Élie. Soyons prudents, il y en a qui font de ces sujets leur cheval de bataille, comme si c'était plus important que l'Évangile lui-même. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Sont-ils innocents? Les faux prophètes sont-ils innocents? Je vous pose la question. Fermons la parenthèse. Dans son épître aux chrétiens de Rome, Paul fait allusion à un problème typiquement humain. Gardons les pieds sur terre. Romains 14 et le verset 4. Romains chapitre 14 et le verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Son maître, c'est Christ. Il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Sous-entendu, comme on dit crûment en français, occupe-toi de tes oignons. Ou regarde d'abord la tête que tu as dans ton miroir. Occupons-nous de nos propres responsabilités, en d'autres termes. Paul fait allusion à l'une des responsabilités des parents. Il dit ce n'est pas en fait aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Paul ne dit pas ici que les enfants doivent se désintéresser de leurs parents quand ils sont vieux et ne pas veiller à ce qu'il leur faut. Ce qu'il veut dire, c'est que les enfants ne devraient pas être à la solde des parents. Une fois adultes, ils doivent diriger leur propre vie indépendamment de leurs parents. Les uns comme les autres ont leur propre responsabilité. Et j'espère que vous me comprenez ici, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber les parents et s'ils ont besoin d'aide, désolé, mais maintenant je suis adulte, j'ai ma propre vie. Non, c'est pas ça que je veux dire. Gardons l'équilibre, souvenons-nous de nos propres responsabilités, de côté et d'autre, de part et d'autre. Au niveau de, ça c'était dans 2 Corinthiens 12, si vous voulez prendre des notes, 2 Corinthiens 12, 14. Au niveau des responsabilités, Paul a aussi écrit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Enfants, vous avez des responsabilités, vous êtes responsables. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je ne savais pas, ce n'est pas de ma faute aussi, c'est votre faute. » Si vous désobéissez à papa ou maman, c'est votre décision, c'est votre faute. Et vous prenez votre propre décision, il faudra en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous connaissons ce passage aussi. Paul parle encore de responsabilité quand il s'adresse à Timothée à propos des diacres, en grec « diakonos », qui veut dire « intendant » ou « responsable » et même « ministre ». Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Alors, Paul établit ici le standard minimum pour tout diacre. C'est responsabilité. Il veut s'assurer que les diacres ou les responsables montrent le bon exemple. Diriger bien ses enfants et sa propre maison n'est évidemment pas l'apanage des diacres et des responsables. C'est ce qui est exigé de tout individu adulte, mûr, responsable. Et de surcroît, toute personne convertie. Même chose pour le nombre de femmes. Quelqu'un qui est mûr, responsable, ne cherche pas les échappatoires. Nous devons nous assurer que nous sommes de bons et fidèles serviteurs et nous comporter en conséquence. Paul parle encore de responsabilité des papas. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » De peur qu'ils ne se découragent. Nous devons aussi nous assurer, nous autres ministres, que nous ne décourageons pas les brebis. Si vous faites votre part, frères et sœurs, dites-vous bien que votre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ, à notre insu, nous applaudissent souvent. Ils nous applaudissent souvent, disant « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as compris, c'est exactement ce que nous voulons dire. C'est exactement ce que nous voulons. » Bravo, continue. Ils sont là tous les deux, nous ne les entendons pas, mais je suis certain que bien souvent, quand ils voient notre attitude, quand ils voient que nous cherchons sincèrement à leur obéir, à devenir comme eux, et ils sont plus souvent que vous le croyez, que vous l'imaginez, tous les deux à dire bravo, bravo, continue. Plutôt que vous tapez dessus, dire allez, allez, allez. Vous savez, nous avons eu au fil des années des ministres qui sont toujours en train de taper sur les membres. Il semble que nous en avons connu. Bon, je dirais, à ce stade aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le problème dans notre groupe, mais nous avons des groupes où c'est comme ça. Que c'est dommage, c'est dommage. C'est bien triste. Paul parle aussi de la responsabilité des personnes âgées. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à prendre les responsabilités, une fois de plus. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Nous savons ces choses, nous savons ces choses. La Bible met l'accent sur notre responsabilité et elle réitère notre responsabilité dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, chapitre sur les bénédictions accompagnant notre obéissance et sur les malédictions accompagnant notre désobéissance. L'un des thèmes majeurs de la Bible est notre responsabilité. Incidemment, quand Dieu dit par la bouche de Paul que le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23, il nous déclare coupables. Nous sommes responsables, et comme le dit également l'Écriture, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais cela, vous le savez. Et vous faites du bon travail. Généralement, vous faites du bon travail. Dieu le voit, n'est-ce pas? Nous savons pertinemment que nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais nous travaillons à notre salut pour revêtir cette gloire qu'il a promise. Là-bas, ailleurs, on a souvent coutume de blâmer. J'espère que ce n'est pas le cas parmi nous, mais c'est à nous de nous évaluer. À nouveau, souvent ces messages, vous savez, ils ne sont pas nécessairement adressés à vous directement, hein, mais ils sont adressés à ceux qui nous écoutent encore souvent. Gardez cela à présent à l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui écoutent nos messages, surtout maintenant. Alors, ceux qui ne sont pas dans l'Église ont besoin de savoir à quoi s'en tenir. Je dirais que la plupart de nos membres font un très bon travail. Et si vous ne le faites pas, écoutez, c'est entre vous et Dieu, hein, c'est votre responsabilité. Je me souviens que l'un de nos ministres de longue date, M. James Muir, nous a dit un jour dans l'un de ses messages lors de la fête des tabernacles, et je le paraphrase, à la deuxième résurrection, lorsque les despotes et les criminels prendront connaissance de la vérité et ne seront plus séduits, ils pourront certes changer, mais ce sera très difficile et il faudra qu'ils s'accrochent, ils seront toujours responsables de leur méchanceté et de leurs crimes, et ils devront changer. Pour certains, ce sera très difficile. Ils pourront certes se repentir, mais ce sera très difficile. Fin de citation. À nouveau, j'ai paraphrasé ce qu'il a dit. C'est essentiellement ce qu'il disait. Et cela ne devrait pas nous décourager, car nous sommes nombreux à faire notre part, à plaire à l'Éternel. Mais il est question de l'importance de notre responsabilité individuelle. Et je m'adresse à nouveau surtout à ceux qui nous écoutent et qui ne font pas partie de l'Église. Ils en feront un jour partie, bientôt, dans le millénium, quand Dieu le décidera. Nous sommes tous individuellement responsables de nos idées, de nos décisions, de notre comportement. Il n'y a pas d'échappatoire. Il y en a toujours quelques-uns parmi nous qui n'ont rien compris ou qui ne veulent rien comprendre, qui insistent sur ce que les choses soient faites à leur façon, qui cherchent à faire changer l'Église. À nouveau, l'Église ne va pas changer. Ce qui est écrit dans la parole divine, c'est ce qui est là et c'est ce que nous enseignerons. Et si un ministre vous raconte autre chose que ce qui est écrit dans la parole, vous n'avez pas besoin de l'écouter. Les ministres ne sont pas Dieu. Hein? Mais quand un ministre vous dit ce qui est dans la parole de Dieu, vous avez plus vite fait de l'écouter. Alors si vous ne croyez pas que vous êtes au bon endroit, vous n'allez pas nous changer. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, écoutez, descendez à la prochaine station, comme on dit. Et on vous reverra plus tard, hein, à la deuxième ou à la troisième résurrection. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous prenons nos propres décisions. Nous avons besoin tous d'être corrigés, mais Dieu le fait souvent avec amour. Il le fait souvent avec amour et patience. Et nous sommes corrigés quand nous lisons la Bible. Et ce n'est guère facile parce qu'il doit s'effectuer en nous tous, moi y compris, une véritable reconversion, une désintoxication spirituelle. Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6, il est écrit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne prends pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Bon, j'insiste à nouveau ici. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas là pour être corrigés tous les sabbats. Et en général, ce n'est pas ce qui se passe. Hein. Une fois par an, par exemple, un ministre aura peut-être besoin de corriger sa congrégation, hein, mais c'est très rare et c'est surtout souvent en privé. Mais nous avons nos responsabilités et vous avez les vôtres. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Pourquoi ? Parce qu'il veut justement que nous comprenions, que nous ayons la vision, que nous comprenions ce qu'ils veulent faire de nous, que nous pensions comme ils pensent. Ça, c'est du travail, hein. C'est du travail, ça prend toute une vie. C'est pas facile. Autre aspect de notre responsabilité. Vous savez, certains jeunes se désintéressent de ce qui s'est passé dans l'Église, prétextant qu'ils n'étaient pas nés ou que nous vivons au 21e siècle, pardon. Et ce raisonnement est tordu. Ce raisonnement est tordu. Il importe que nous connaissions notre histoire. Si vous voulez faire partie de l'Église de Dieu, vous avez besoin de comprendre quel a été notre cheminement pendant ces 2000 dernières années. C'est notre histoire. Vous ne pouvez pas dire « Oh, pff, ce qui s'est passé dans le passé, hein, ça je m'en moque ». Écoutez, c'est votre histoire. Il y a des leçons qui ont été apprises, il y a des fautes qui ont été commises, il y a des leçons importantes qui ont été apprises. Vous avez besoin de savoir dans quel groupe vous êtes. Qu'est-ce qu'il enseigne ce groupe? Quels sont ses antécédents? Il est trop facile de dire que « Monsieur Armstrong, bah, je ne connais pas moi ». Vous auriez plus vite fait de savoir qui il était. Et qui vous êtes et à quel groupe vous appartenez? Il s'agit à nouveau de notre histoire. Le monde a une excuse. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Mais quand Christ a dit « Pardonne leur père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », il ne faut pas faire de cette déclaration, vous savez, une déclaration qui couvre tout. « Ah, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont responsables de rien. » Oh non, il a dit ça dans un contexte très spécial. Il n'a pas dit que personne n'est responsable. Faut toujours regarder le contexte, qu'est-ce qui est écrit quand il a dit cela. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai, ils connaissaient leur cœur, donc ils pouvaient dire cela quand il était sur la croix. J'ai lu récemment une citation de feu l'écrivain, journaliste et philosophe français Jean d'Ormesson, qui disait, je cite ce qu'il disait, « La seule façon pour Dieu de s'exonérer d'une responsabilité écrasante, c'est de ne pas exister. » On peut pardonner à Dieu s'il n'existe pas. S'il existe, je crains qu'il ne faille trop souvent le maudire. Incroyable, n'est-ce pas? Intéressant, mais M. d'Ormesson était un homme cultivé et intelligent, mais il ignorait le dessein magistral que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ accomplissent ici-bas. Ce qu'il a écrit ici était idiot, mais il avait une excuse. Un jour, il saura. Un jour, il aura sa chance de devenir lui aussi enfant de Dieu et de se joindre à la famille divine en tant qu'être spirituel. Mais il devra choisir, il aura sa responsabilité. Il aura des comptes à rendre, comme tout le monde, il pourra être pardonné, mais il devra choisir. Il était en partie responsable, puisqu'il n'était pas éclairé, et à cette époque-là, il sera pleinement responsable. Lorsque nous connaissons la vérité, que le Saint-Esprit agit en nous, nous sommes pleinement responsables. Souvenons-nous de cela. Nous devons bien nous mettre dans la tête que nous sommes tous responsables. Comme l'a écrit l'écrivain et poète du XIXe siècle John Ruskin, « Plaider l'ignorance n'enlèvera jamais notre responsabilité ». Tant de chrétiens s'imaginent de nos jours que Christ a tout fait à notre place ou à leur place. Or, Christ a dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21. Il parle ici de choix, de responsabilité. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous connaissez le passage. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 17 à 19. Christ a offert sa vie pour le pardon de nos péchés. Il a payé l'amende des péchés de tous ceux qui se repentent. hein, de tous ceux qui se repentent. Et ils font appel à son sacrifice, le réclament en tant que leur sauveur personnel, se mettent à changer, à obéir, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Mais ceux qui se repentent sont ainsi réconciliés au Père, mais leur responsabilité ne s'arrête pas là. Ils doivent changer. Ils doivent changer. Des millions de chrétiens s'imaginent être sous la nouvelle alliance. Ils ne le sont pas. Ils n'ont jamais accepté les termes de cette nouvelle alliance. Ils le feront un jour, mais ce n'est pas encore le cas. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons changer. Quand vous décidez d'être honnête, c'est votre choix. Quand vous refusez de mentir, c'est votre choix. Quand vous décidez d'observer le sabbat, c'est votre choix. Quand vous vous mariez, c'est votre choix. Quand vous achetez une voiture ou une maison, c'est votre choix. Quand vous décidez de manger des viandes impures ou de vous saouler, c'est votre choix. Quand vous décidez de vous lever à 5 heures du matin, c'est votre choix. Quand vous décidez de regarder des choses que vos yeux ne devraient pas voir ou entendre des choses que vos oreilles ne devraient pas entendre ou écouter, c'est votre choix. Quand vous avez une alimentation trop grasse et avez trop d'embonpoint, c'est votre choix. Quand vous payez fidèlement vos dîmes, c'est votre choix. Personne ne vous force. Quand vous décidez de faire le fainéant, c'est votre choix. Quand vous décidez de ne pas respecter les panneaux de circulation routière, c'est votre choix. Les accidents se produisent souvent parce qu'une ou plusieurs lois ont été violées. Il y a des accidents qui sont hors de notre contrôle, mais d'autres que nous aurions pu éviter. Quand nous permettons à des idées tordues, à des gens tordus d'entrer dans notre tête, nous en sommes également responsables. Pas toujours, mais souvent. Quand nous préférons faire la politique de l'autruche et fermer les yeux, c'est notre choix. Quand nous critiquons les autres, c'est notre choix. Quand nous aimons notre prochain, c'est notre choix. Quand nous refusons de porter les armes et de tuer un autre être humain créé à l'image de Dieu, c'est notre choix. Si, découragés, nous cessons de garder les yeux sur Christ, prétextant que telle ou telle autre personne ou même ministre nous a offensés ou ne fait pas ce qui est juste, c'est notre choix. En fait, Dieu seul est notre juge. Votre ministre n'est pas votre juge, je ne suis pas votre juge. Christ est votre juge, Dieu est votre juge. C'est à eux, à notre Père Céleste et à son Fils que nous avons des comptes à rendre, pas au ministre. Gardons les yeux sur Christ, c'est lui que nous devons plaire. Quand nous jugeons plus sage de ne rien dire dans certaines situations et de dire quelque chose dans d'autres, c'est notre choix. Quand nous décidons d'admettre nos torts, de prier, de jeûner, de nous rapprocher de Dieu et d'étudier sa parole pour devenir comme lui, c'est notre choix. Et j'en passe. J'espère que vous me comprenez. J'en passe et pas nécessairement des moindres. La vie n'est pas divisée en semestres. L'été est une saison, pas un trimestre de congé. S'assumer est une responsabilité. Est une responsabilité. Une responsabilité individuelle. Bill Gates a dit cela. Apocalypse, chapitre 22, nous arrivons vers la fin de ce message. Apocalypse 22 et le verset 14. Apocalypse 22 et le verset 14. Et je cite là ici la version Osterval qui est plus fidèle à l'original. Souvent, il est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes », ce qui ne veut absolument rien dire, mais dans l'original, il est écrit « Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. » Mais dehors sont les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quelle est notre responsabilité ? Rappelez-vous, Actes chapitre 2, versets 37 et 38, quelle est notre responsabilité ? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? Que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du, ou plus exactement, pour le pardon de vos péchés, c'est une meilleure traduction, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » À qui la faute ? Titre de mon message d'aujourd'hui, à qui la faute ? à nous. Nous sommes responsables. Il importe de reconnaître humblement nos torts et de nous en repentir, ce que nous faisons généralement. Il ne nous reste plus qu'à nous perfectionner encore davantage en ce sens, car nous ne devons pas non plus oublier que nous devons porter de bons fruits. Notre objectif est de pouvoir dire, comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée, chapitre 4, versets 5 à 8. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous souhaite bon courage, et je vous dis au revoir et à bientôt.